Salut les joueurs et salut les joueuses. Nous sommes toujours le 29 janvier 2015 et vous écoutez le 63e épisode de Proxy Jeux. Un grand merci à Siol, Loïc Lacombe, Jean, Nicolas Lefebvre, Olivier Darchy, Hervé Mignot, Cyril Guillaumarche, Alès, Gaëtan Perrin, Peggy Chazenet. Je suis Olivier et je suis accompagné de Fred Vuvania. Bonjour,
bonsoir
Fred. Et ce soir, je suis également... Ah, vous y avez cru, hein, que je ne le présentais pas. Je suis également accompagné de Jérémy.
Bonsoir Olivier, bonsoir Fred.
Comment vas-tu?
Oh bah en pleine forme.
Et puis
tu étais attristé par les news de
l'épisode dernière.
Il y a quelques chocs. Et puis vous l'avez plébiscité. Non, vous l'avez pas plébiscité. Vous ne l'avez pas plébiscité et c'est mal. On a de nouveau Eve avec nous. Bonsoir Eve.
Bonsoir.
Eve Pizzagalli. Comment allez-vous?
Ben nous,
malgré cette triste nouvelle. Donc un épisode qui est l'épisode invité. Et ce soir nous avons donc Fred Vuvania qui est l'auteur de Maître Renard. C'est encore le temps de dire que vous pourrez le croiser à Cannes. Et puis voilà.
Ouais. C'est pas mal comme accroche.
On va pas promettre l'essai de présenter.
Une minute vingt, on n'a jamais fait
En intro aussi, c'est la deuxième partie, c'est bon.
Présente. Qui es-tu? Alors, la phrase fétiche de Fête Noël, qui es-tu, Fred Vuvania?
Je suis un auteur lyonnais, dont c'est le premier jeu édité qui sort. Je fais partie de la CAL avec mes petits collègues auteurs.
Rappelle-nous la CAL.
Donc la Compagnie des auteurs lyonnais, un truc complètement inofficiel et potage dans lequel on se retrouve pour faire un petit peu de synergie de tout le monde de jeux de société lyonnais, avec en testant nos jeux, en faisant du covoiturage, juste comme ça. Et puis on a lancé il y a quelques temps notre label CAL, qui est sur nos jeux de société, qui est à l'entrée des boutiques, qui fait un peu la promotion du jeu de société lyonnais dans les boutiques et dans la région lyonnaise. C'est quelque chose que dès que le jeu est sorti, on a le petit tampon sur toutes nos boîtes de jeux, sur le magasin, sur la vitrine. Et c'est comme ça, c'est quelque chose que les vendeurs peuvent montrer aux clients qui passent en disant vous avez des jeux comme ça, ou vous avez aussi le jeu lyonnais d'un auteur lyonnais.
C'est une sorte d'AOC, c'est pas le Made in France.
Mes régions du talent.
Fabriqué par des canuts véridiques. Mais oui, monsieur.
Fabriqué, pour coup, on respecte le chartre avec fabriqué en France, les autocollants et tout ça, parce que on est aussi avec les jeux au plat qui.
Oui, avec Florent Toscano, qu'on a reçu l'année dernière.
C'est ça, qui tenait à ce que même nos petits autocollants soient faits en France, et donc c'est le cas, on s'autofinance.
Ouais, mais par contre. C'est un intégriste.
Ouais, il est un peu extrême, mais il est gentil quand même.
Ouais. C'est lui qui est derrière la cale, donc t'as pas le choix, quoi. C'est ça.
Non, mais c'est un des chefs, on n'a pas le droit de critiquer ça. Ça fait partie, il fait partie des trois leaders qui ont lancé ça avec Nicolas Bourgoin et Alexandre Droit, que j'ai rattrapé un peu après le lancement. Et maintenant, on est près d'une vingtaine d'auteurs, ou presque auteurs, donc des gens qui sont encore à l'état de prototype et qui essaient de trouver les autres.
C'est un club de snobs, en fait, pour dire oui, moi je suis de la cale.
Mais tous lyonnais.
Tous lyonnais ou région lyonnaise.
Oui, on rajoute Antoine Bozard.
Ça s'appelle la CAR, après, non, si c'est région lyonnaise, ça commence déjà un petit peu dénaturé. Déjà, ils acceptent des auteurs de Villeurbanne, tu vois, ça commence un petit peu.
C'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes de gens qui étaient en dehors de Lyon, en leur disant le but c'était faire mon lyonnais, mais on n'est pas fermé, donc les gens quand même viennent et puis montrent leur prototype, et il y a quand même des choses qui se font avec eux, et ça se fait naturellement, donc on est quand même ouvert. Mais
comme le gars qui est venu vous voir, fait d'outils, il a dit un jeu, est-ce que vous voulez.
On a dû lui dire non, lui.
Mais il a pas besoin en fait. Mais à Cannes, par contre, vous êtes organisé et vous avez.
Ouais,
on
essaie de faire ça bien pour gagner en visibilité. On était déjà à Cannes 2014, on avait déjà monopolisé une dizaine de tables. On est venu avec nos petits panneaux pour montrer qui on était. Et on avait fait un petit buzz parce que finalement, les gens savaient où on était, ils venaient nous trouver. Et puis on s'envoyait les éditeurs entre nous parce qu'on savait quels jeux on avait à promouvoir et les jeux des autres. Et du coup, les éditeurs restaient beaucoup à nos tables. Et c'était quelque chose, c'était ce qui est intéressant. Et sur tous les auteurs de la CAL qu'on était dernière, donc à l'époque on était 10, sur les 10, on est presque 8 à avoir signé un jeu pour Cannes. Donc c'est quelque chose qui avait bien marché. Et qu'on continue à monter comme ça. On a d'autres auteurs qui nous ont rejoints, pour qu'on monte presque une vingtaine actuellement. Et on se reprépare pour notre Cannes 2015.
Il manque
on fait nos petites affiches, on a nos petits t-shirts, on a nos petits badges, et on essaie de faire ça bien.
Il manque une compagnie des éditeurs lyonnais après. Et, c'est bon.
Ah, ça, et puis eux, ils commencent à monter, puisque.
Il y a des éditeurs, ouais.
On en a un ou deux. Il y a Diptych qui est Villeurbanne, il me semble. Il y a Black Book. On a les gens de chez Ketchup qui viennent de se lancer avec Sapiens. Et on a Banquise Édition qui est en train de se lancer. Donc on va voir quand même. Et puis les jeux plats, bien sûr. Donc ça va faire presque 5 éditeurs sur la région lyonnaise.
C'est un microcosme, quoi.
C'est le vivier qui continue à s'enrichir.
Ça risque, un peu, ça risque d'être un peu consanguin au bout d'un moment, attention.
À quand l'usine en scope pour fabriquer les jeux?
On commence à avoir les premiers auteurs qui sont signés par les éditeurs lyonnais, donc ça commence à venir un petit peu...
Donc bientôt il y aura les batailles. Oui, méfie-toi, lui il paye pas dans les délais. Mais ça va être un petit peu le bordel, mais bon. C'est ça, après il faudra que vous fassiez gaffe à vos réputations du coup.
Ouais.
Tu pourras vite monter une expédition punitive.
Donc Maître Roland... Donc Maître Renard chez Superlude,
donc sorti pour le Festival de Cannes en avant-première, sorti officielle quelques jours après le festival.
Ah bah c'est pour ça que vous n'avez pas été nominé.
Exactement.
Il y aura des boîtes.
Je vois pas d'autres raisons.
Il y a eu précédent donc.
Non, c'est vrai que le jeu sortait pas exactement à temps, donc du coup il pouvait pas être nominé.
Il y aura des boîtes en vente sur le salon.
Il y aura
quelques-unes quoi.
Plus de 100 boîtes en vente sur le salon, mais ça reste quand même pas plus de 100 boîtes. Qui sont disponibles pendant les 3 jours du festival, et après il faudra rentrer chez vous et commander sur Philibert ou bien sur vos petits crémiers.
Oui, alors il faut quand même, enfin on a l'impression de dire des bêtises à chaque fois qu'on parle. Il y a quand même une raison pour laquelle le jury ne veut, enfin privilégie les jeux qui sont sortis, c'est pour que les gens qui quittent le festival
puissent l'acheter, partir avec. Et ça c'est indispensable, tu peux pas présenter un jeu en disant bah vous pouvez l'acheter dans 2 mois, c'est pas possible, donc ça se comprend complètement.
Donc Maître Renard, est-ce que tu nous le présenterais pas?
Allez, j'essaye.
Ouais. On va voir si tu y arrives.
C'est un jeu que j'ai signé l'année dernière et qui sort maintenant, qui est un jeu pour la famille, on va dire, un jeu familial, mais qui joue aussi avec des gros joueurs s'ils veulent, mais qui est vraiment orienté famille, qui est un jeu de reconnaissance tactile où finalement on va jouer tous en simultané, en même temps, dans la boîte.
Je vais t'enlever en fait. Voilà. Alors, il a pris. Je lui ai donné mon premier Carcassonne comme support de micro. Il a dit non.
J'ai mis mon jeu. Et donc c'est un jeu illustré par Catel Rouz, qui est une ancienne de chez Ankama et qui fait un dessin vraiment très fun et que j'aime beaucoup parce que finalement quand j'avais illustré mon prototype à la base, j'avais déjà utilisé des dessins d'Ankama et l'éditeur Superlude a repris mon concept un petit peu de l'ambiance que j'avais donnée en disant tiens c'est bien ce que t'as, on va aller chercher une illustratrice qui colle bien. Et donc après, il a pris Catel Rouz qui illustre très bien le jeu.
Par contre, 12 pages de règles quand même.
On a une page recto verso avec beaucoup de remerciements parce que vu que c'est mon premier jeu, j'ai remercié plein de gens, donc ça prend plein de place. Mais quand vous ouvrez la boîte, vous avez 4 masques de renard, tous différents. Vous avez,
ils n'ont pas fait les trous pour les yeux.
Il n'y a pas le trou pour les yeux parce que c'est le principe du jeu.
Attends, je vais chercher les ciseaux.
Et ne le faites pas. Ne le faites surtout pas.
Alors ça, c'est moi. Je pourrais le faire en fait. Heureusement que tu précises parce que...
Pourquoi il n'y a pas de trou pour les yeux? C'est parce que le but, c'est que les masques occultent la vue pour qu'on soit tous un peu aveugles et handicapés de la même manière. Donc ne faites pas votre trou, récupérez votre masque en l'état. Assurez-vous que les petites ficelles...
Faut pas jouer avec des aveugles, c'est cheaté sinon.
Alors les aveugles peuvent vous mettre une branlée complètement. Ouais. Mais l'intérêt, c'est que justement, vous pouvez jouer avec des amis aveugles si vous en avez. Et c'était le but à la base.
Tu sais qu'à Lyon, il y a une association...
Ouais, je vais aller les voir aussi.
Tu vas leur dire, oui. J'ai un jeu qui va vous plaire. Il y a enfin un jeu, vous n'avez pas besoin de le transformer, il est déjà prêt.
Voilà, l'idée initiale du jeu, c'était, tiens, il n'y a rien qui existe pour les aveugles. J'aimerais jouer avec les aveugles si j'en ai envie. Pas faire un jeu pour les aveugles, mais un jeu avec lequel on peut jouer avec les aveugles. Et c'est de là qu'est née l'idée du jeu.
Les aveugles, c'est comme les enfants, quoi.
Faut faire des jeux pour eux.
Non, je sais pas. Bon, bref.
Et des enfants aveugles.
Et alors, je vais dire une deuxième connerie. Et heureusement qu'on n'a pas dit qu'il fallait faire des trous dans les masques, parce que tu te rends compte, après, on aurait dû refaire un retour sur. Ah oui, mais non, en fin de compte,
faut pas faire
Superlude, ils sont quand même pas si mauvais que ça, il n'y avait pas trop à faire. Voilà.
Donc on a les masques,
des jolies couleurs,
on a plein de petits pions
meeples,
qui représentent des animaux. Et on a des cartes qui représentent ces pions, justement.
Ça, ce n'est pas un animal.
Ce n'est pas un animal. Ça, c'est... Il y a aussi plus d'animaux, des pions russes, qui sont des éléments à prendre en plus, qui vont rajouter des règles. Et en fait, le jeu est très simple au début. On va chercher 3 animaux, tous en même temps, avec une seule main.
Dans la boîte?
Dans la boîte. On joue dans la boîte. Et c'est ça, ça évite que les pions partent n'importe où. On joue tous en même temps dans la boîte.
Tu sais pas, si t'as le masque, tu sais pas, la boîte.
Alors, la boîte, tu peux la tâter quand même un petit peu. Tu tires du capot de la boîte pour secouer, pour que les éléments se déplacent. Et l'avantage, c'est quoi? Tu peux jouer dans la boîte, ou si tu peux jouer à une version coquine, les mains en dehors de la boîte pour toucher tes partenaires. C'est tout à fait ouvert.
Tu peux toucher
3 animaux.
Écoute, franchement,
je vois un cochon autour de la table.
Il est presque 23h, c'est bon, tu peux nous dire la vraie origine de l'idée du jeu. Quoi.
L'idée, c'était que les gens aient des masques et je puisse les toucher sans qu'ils se rendent compte et qu'ils croient que ce soit leur voisin. Et donc on va jouer en simultané pour essayer de récupérer les pions. Dès qu'on pense avoir tous les animaux, on dit stop, tout le monde a les masques, on compare les résultats.
Comment ça, tous les animaux? Faut juste avoir tous les, une série d'animaux différents?
On va piocher trois cartes qui seront des animaux.
On va les regarder.
On va chercher un cochon, une oie et un mouton. Mm-hmm. Tout le monde est au courant de ça. On met tous ses masques. Top départ, tout le monde va chercher dans la caisse et dans la ferme pour essayer de trouver les animaux. Et quand tu penses avoir les trois bons, tu dis stop. Tu regardes ta main, chaque fois qu'un animal est bon, il te fait un point. Quand un animal est mauvais, il te fait moins un.
Non, là, si t'es aveugle, ça marche pas.
C'est impossible.
Comment ça,
non, mais c'est impossible ce jeu.
Alors, tu regardes les cartes, pas si tu
les pions en main, ils se rendent compte que finalement c'est très difficile.
Non, mais le renard, pour les aveugles, on t'a fait une réflexion quand même. Comment ils voient les cartes pour savoir qu'ils doivent aller chercher les animaux?
Alors, pour les gens qui n'ont pas la possibilité par les cartes, tu leur dis quels sont les animaux qu'on va chercher.
Ah ouais, mais il faut quand même
non, les cartes sont prêtes.
Il faut un vrai voyant.
Tu peux, oui, alors dans tous les cas, il faut un voyant. De toute façon, il faut un voyant pour aller acheter la boîte.
Bah non, ils savent faire, ils connaissent le chemin.
Mais j'allais dire, vous voulez commander chez Philibert, mais...
Alors je vous rappelle quand même.
Mais sur internet, c'est dur, Philibert.
Non, mais vous rigolez, il y a quand même des moyens pour que les aveugles puissent surfer et tout.
Mais c'est vrai que si vous avez un valide.
Non, mais
t'as envie
de faire des cartes en braille.
Non, ça avait été évoqué une fois, mais c'est des questions de coûts. De coups qui font que tout a été vraiment.
Parce que là,
il faut faire un Kickstarter.
Donc voilà, c'est un truc très simple où on peut jouer avec les aveugles, mais l'idée c'est pas faire un jeu pour les aveugles, mais vraiment un jeu familial. Et ça fonctionne plutôt bien parce que, étant donné que tout le monde a les yeux bandés et personne n'est habitué justement à perdre un de ses sens, on est tous dans le même désarroi en se disant j'y arrive pas. Et les pièces sont faites de telle sorte qu'elles sont semblables, mais il y a toujours des différences. Par exemple, les vaches, pour essayer de savoir où est la vache, on va aller tâter les mamelles, et c'est le seul pion qui a des mamelles. Et quand je disais que c'était coquin.
Attention, l'exemple est pas fortuit.
Quand t'as un serpent, tu vois que le serpent il fait une certaine forme,
oui.
Et tout.
Et par rapport à ton proto,
tu tâtes la mamelle.
La mamelle. Ouais.
T'avais quoi? C'était les mêmes
Mon
types
proto,
d'animaux.
Mon proto, c'était les mêmes ça types d'animaux, pas exactement les mêmes.
Pas la même forme, ouais.
Mais les formes étaient beaucoup plus rondes et c'est des pions que j'avais achetés sur Supplus Matériel.
Oui, c'est ça, ouais, voilà.
J'avais, tiens, c'est pas mal, j'avais pris un chameau, j'avais pris un mouton, j'avais pris un élan, j'avais pris ce que j'avais trouvé. Après, en les essayant, il y en a que j'ai éliminé parce qu'ils n'avaient pas les bonnes tailles, pas les bonnes formes ou pas assez de similitudes. J'ai gardé vraiment des trucs qui à chaque fois étaient deux par deux semblables. Là, on retrouve un peu l'esprit. Par exemple, on a une cocotte et une oie qui sont finalement tous les deux des volatiles, mais il y en a un qui a un plus long cou que l'autre. Donc, avec le tactile, on peut faire les différences. Et l'éditeur a remixé tous les pions pour faire des designs qui étaient plus efficaces parce que de mes formes rondes, il est parti avec des formes un peu plus droites, avec des arêtes qui sont finalement des choses qui sont plus faciles à repérer.
Ah bon ?
Et qui, ouais. Les doigts ont besoin vraiment d'arêtes pour sentir les différences. Et du coup, ça fait un petit peu récent. Alors, le Pac-Man, c'est pas un Pac-Man, c'est un fromage.
Oh, quelle déception.
C'est un fromage qui a une forme de Pac-Man.
Bah oui, puisqu'il est un peu.
Et donc, il y a une carte où on voit le fromage et justement, le renard est en train de se battre avec le corbeau et c'est la petite anecdote à la fable du corbeau et du renard.
Alors, parce que oui, ça s'appelle Maître Renard.
Ouais.
Mais c'est par rapport à.
C'est une ambiance. Il n'y a pas de rapport avec le conte.
C'est ça, t'es pas lié avec.
Il n'y a pas d'histoire de conte et jeu ni quoi que ce soit. C'est vraiment. Moi, à la base, j'ai un jeu qui n'était pas dans le monde des renards, mais qui a été apporté par l'éditeur en disant on va faire un univers où on est des renards, où on va attaquer une ferme, et on va enrober ça en disant tiens, on peut être à l'époque médiévale où il y a presque pu avoir de la magie autour. Donc c'est pour ça que c'est illustré avec des petites tours de château à côté, on est dans une vieille ferme. Et le côté maître renard, c'est vraiment. Pour le côté historique et couleur du jeu, l'historique, même s'il n'y a pas de lien avec la fable, mais on a profité de
ça fait des super
anecdote.
Masques.
Ça fait des jolis masques où on a 4 masques différents, 4 masques de renard roux, et j'en profite pour passer mon petit goodie, sachant que les gens qui seront.
Ah, les illustrations des cartes sont superbes.
Ouais, tout le jeu est très beau.
Les gens qui seront à Cannes et qui viendront acheter le jeu à Cannes auront la possibilité d'avoir en goodies un cinquième masque, qui est le masque du renard des neiges. Qui ne sera donné que pour Cannes et pour les quelques events qui auront lieu après, à gauche, à droite, que j'organiserai et que l'éditeur organisera.
Les renards argentés.
Alors, ce petit renard des
neiges, de mettre là.
Il ne servira pas à jouer à 5, mais uniquement pour avoir un masque collector si vous voulez changer. Parce qu'on ne peut pas jouer à 5, pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas cette pion d'une part. Et
si,
surtout,
c'est
pour remplacer un masque si tu as fait des trous pour les yeux.
Si tu as fait des trous pour ton
Tu as le droit à une autre chance.
Et tu peux pas jouer à 5 en même temps parce que la boîte est trop petite pour 5 mains en simultané.
Et puis t'as pas assez d'animaux,
t'as pas essayé.
Il y a pas assez d'animaux non plus. C'est fait pour.
Il faut
4.
Faire un kit, ce sera pour l'extension. Il y aura un kit 5.
Il faudrait un kit avec plus de pions et aussi une boîte plus grosse parce que sinon t'es limité. Mon jeu initial se joue à 5, mais on a dû réduire à 4 pour question de coût et question de taille de boîte. Parce que t'as une boîte de 5.
Ouais, t'as dû faire une boîte grosse.
Le prix public, c'est quoi?
On est à 26 euros. Ce qui a été une belle lutte, parce que vu le prototype initial qui avait beaucoup plus de pions, beaucoup plus de choses, on était parti sur les 35-40, ouais, ce qui n'était pas possible sur un jeu comme ça. On est sur un public familial, il nous faut un jeu à 25-28 euros.
Mais pour les pièces en bois, c'est pas évident. Ouais. Ça,
c'était
ça
pas évident, et les marges sont pas énormes pour ce jeu-là. Donc, et je suis content qu'il ait quand même réussi à faire un truc top avec 4 masques, avec près d'une quarantaine de pions.
C'est pions en bois, cartes, plus cher, plus bois. Dur que les masques. Ouais.
Et finalement, on a un petit jeu à 26 euros et je suis plutôt content.
Et c'est tout made in France, monsieur, avec des sapins du Jura.
Ah ça je peux pas le dire. C'est l'éditeur qui l'assumera.
Attends,
moi je
les
pense pas.
Qui sont en France aussi.
Non je pense.
Origem a participé à la réalisation, voilà. Du donc.
Origem fait partie du jeu.
C'est-à-dire la fabrication est en Chine.
Donc c'est fait en Chine. Ce sont les choses qui sont en Chine. Ce qui fait aussi de sorte que le jeu arrive un petit peu en retard et qu'il sera pas exactement le même.
Ah tout de suite,
parce que c'est un peu long.
Ah bah oui.
C'est ça.
Il y a du temps.
Ça a failli se faire en Europe et finalement pour rien ça s'est fait en Chine, mais après.
Origem ils sont beaucoup avec What's Game donc de toute façon. Et tu donc c'est un jeu tactile, il n'existe pas beaucoup de jeux tactiles.
Non.
T'avais déjà essayé par exemple Dr Shark qui est chez Hurricane par Catala.
Je l'avais pas essayé, mais j'en avais entendu parler. En fait, quand j'ai voulu instaurer mon concept de cécité, on va dire, tout le monde perdait la vue, j'ai essayé de voir ce qu'il faisait et j'ai vu pas mal de jeux qui se faisaient.
Crever les yeux de vos adversaires.
Ouais, des trous, c'est pas dans les masques.
Non. Il y a beaucoup de jeux qui se faisaient avec des sacs où les gens cherchaient quelque chose.
À tâtons chez Abba, qui est quasiment le même concept. Tu retournes une carte, il faut chercher un objet, mais ils sont des formes très différentes par contre pour le coup. Parce qu'il faut chercher une sphère, un cube, des trucs comme ça. Ouais, c'est dans un sac en fait.
Ça se faisait et moi je voulais quelque chose où tout le monde puisse jouer en même temps. Et vu qu'on peut pas jouer tous en même temps dans un sac, il fallait.
Ah si, à tâtons, chacun a son sac avec les pions.
Chacun a son sac, ouais. Mais chacun touche pas les mains des autres. Et moi je voulais qu'on ait un petit côté tactile.
Tu n'as pas essayé avec un grand sac ?
J'ai pas essayé avec un grand sac. J'ai tout de suite dit que finalement des masses ça serait rigolo parce que en plus on ajoute le côté visuel, on peut s'amuser et les gens de loin ils voient que t'as l'air con. Donc du coup ils viennent voir ce que tu fais. Ils disent ah tiens, t'as l'air con.
C'est du buzz.
Alors oui. Complètement. Ouais, le but c'était d'accrocher un éditeur avec un prototype qui faisait rigoler. Les gens ils venaient parce que ça avait l'air sympa. Ils voyaient que le jeu il se comprenait sans qu'on explique la règle, juste en voyant les autres jouer. Ils disent ah tiens, on peut essayer. Et c'est pour ça que j'ai présenté le jeu pendant les offs de Cannes. Et en deux jours, j'ai signé le jeu et j'ai eu plusieurs propositions de plusieurs éditeurs qui étaient emballés parce que j'ai fait en sorte que ça accroche.
Mais après, chez toi, par contre, tu as plus cet effet-là. Et pour les gens qui achètent le jeu, je veux dire,
après,
ils vont jouer juste le plaisir.
En plus, tu vois plus, t'as l'air bête parce que tout le monde a son masque. Mais
qu'est-ce que t'en sais ? Peut-être que toi, t'as ton masque, mais moi, je l'ai enlevé et ça, tu peux pas le voir.
Tout à fait.
Non, tu t'es trompé, c'est le maître.
T'avais le choix, est-ce que tu as eu le choix ou alors
j'ai eu le choix d'éditeur.
Pourquoi t'as choisi Superlude?
Alors, quand ils sont venus me voir.
Si c'est pas discret.
Non, ça me dérange pas d'en parler parce que c'est vrai que ça fait partie de la vie d'auteur, de la vie d'un jeu.
Le voyage aux Bahamas, tout ça, qu'ils t'ont offert, tu peux en parler.
Les putes et la coke.
Monsieur, c'est calme. Hein.
J'ai pas mal d'éditeurs qui sont venus, j'en ai des très gros, j'en ai des très petits, comme Superlude qui était encore un tout petit à l'époque. Et je connaissais un petit peu Superlude parce qu'il avait failli signer un de mes jeux 6 mois avant. Donc on avait déjà lié un premier contact et il s'intéressait déjà au jeu. Et il est venu avec les gens d'Origames pour tester le jeu. Ils ont fait une partie autour et ils ont vu tout de suite le potentiel du jeu. Ils m'ont dit tiens, on pourrait changer ça, Et sur le coup, ils m'ont dit mon prototype initial avait 100 pions. Ils m'ont dit on va enlever 60 pions sur les 100. Je leur ai dit mais non, ça marchera pas. Ils m'ont dit si, je suis sûr que ça ira mieux. Je leur ai dit ok, prouvez-moi que j'ai tort. On a enlevé les pions, on a fait une partie. Et ça a été magique.
Tu trouvais plus facilement.
Voilà, tu ne nageais pas dans une mare de pions, tu enchaînais tout de suite et tu rajoutais du fun et du speed. Et je dis, ah ouais, vous êtes forts, les gars. Et du coup, j'ai dit, j'aime ce que vous avez. Voilà, vous avez senti le potentiel du jeu, vous avez su le sublimer en quelques secondes, alors que moi, ça fait des mois que je travaille dessus. Ça m'intéresse. Tout de suite, ils ont dit, on te le signe. J'ai dit, bah, pourquoi pas.
Allez,
ils
n'avaient
pas de
contrat.
Sur le coin de table. Mais ils n'avaient pas de contrat. Ils disent, on verra demain. Je dis, bon, ok, on se revoit demain. On se rate pas. Et le lendemain, j'ai d'autres éditeurs qui m'ont dit, pourquoi pas et tout.
C'est trop tard.
Et j'aurais dit, je pense que je vais partir avec Superlude parce que Superlude et Origames ont compris ce que je voulais faire du jeu, ont une charte graphique aussi qui me plaît chez Superlude. Et même si c'est pas le plus gros éditeur, c'est quelque chose qui pourra bien développer parce qu'ils ont compris ce que je voulais faire du jeu et ça m'a plu. Donc c'est vraiment au coup de cœur de ce qu'ils voulaient faire du jeu et comment ils l'avaient compris que je suis allé vers lui. Pas de parti pris, pas de copinage ni quoi que ce soit, parce que les autres éditeurs m'intéressent aussi. Il y a des gens vraiment sympas qui m'ont proposé, mais j'ai fait à celui qui me parlait le plus.
T'aurais pu vendre 1 million d'exemplaires, non, sinon chez Hasbro.
Alors c'est tentant, hein. C'est tentant parce que tu dis est-ce que tu fais un jeu qui va te plaire et t'en vends peu pour l'instant, ou bien peut-être qu'il marchera, mais t'es pas sûr.
Parce que tu fais le Monopoly du troisième millénaire.
C'est ça. Et je prends le parti du.
Le Bamba. C'est pas ça le Monopoly du troisième millénaire.
Je me suis dit que si jamais le jeu plaît et marche. même si c'est un petit éditeur, rien ne l'empêche qu'il fasse sa place, comme ça a été à l'époque sur Libellude, qui avec un Dixit ont fait un carton alors que c'était un de leurs premiers jeux, et voilà. Donc pourquoi pas faire confiance à un petit éditeur, quitte à ce qu'après le jeu.
Non mais ils ont Roy Games derrière, c'est comme un excellent studio quoi.
C'est quelque chose qui m'a rassuré moi d'avoir Roy Games derrière, vu le potentiel des gens que j'ai rencontrés.
Et t'as dit que t'avais d'autres jeux dans ta besace, enfin, tu préparais d'autres jeux.
Ouais, j'ai quelques jeux qui sont en cours de négociation avec des éditeurs, qui sont presque signés mais c'est pas fait, donc je peux pas en parler. Mais j'ai quelques jeux qui ont remporté des prix, notamment j'ai Pirate contre Pirate qui a rencontré le prix du jury au Ludix.
Non, c'est Ninja contre Ninja.
Mais ils ont aussi fait Pirate contre Pirate. C'est le même éditeur.
Et il y a d'autres jeux qui ont combien de noms maintenant, donc il va falloir changer de nom. Mais c'est vrai que le jeu a gagné en pas mal de visibilité, donc qui se porte bien. Et j'ai mon jeu qui commence à être le plus connu, qui est mon adaptation du jeu vidéo Worms en jeu de plateau.
Ah, je crois qu'on en a parlé là.
Madame Chenouillette qui en a parlé. Et à Cannes, avec Jérémy, on l'avait vu à Cannes. Il m'avait repéré à Cannes. Il me dit tiens, ça m'intéresse. Je lui dis tiens, prends des photos. Et on s'est vu plus loin, plus tard.
C'est marrant, tu sais, je connais le mec qui a fait une adaptation de Left 4 Dead.
Ouais, mais il n'est pas arrivé à avoir la licence, lui.
Bah non.
Ouais, alors que moi, c'est la licence que je veux.
Mais est-ce que tu dis il a pas réussi
mon jeu
lui,
est sorti.
Il a pas réussi lui. Attends, parce que là il est en train de te taunter.
Oui, mais moi, mais ça fait un an qu'il attend une signature de licence. Mais d'autre côté, c'est que moi le jeu, enfin, mais après c'est Roy Games qui a réussi aussi à tirer le jeu vers autre chose que Left 4 Dead. Alors que toi après je sais pas si t'as pas la licence Worm, c'est effectivement plus dur. Mais il y a peut-être un autre travail, mais c'est pareil, ça se trouve avec un Roy Games, ils sont capables de garder tout l'esprit de ta version, de ton adaptation. Et tant pis si t'as pas la licence, et quand même d'arriver à sortir un jeu qui sera quand même fun, parce que t'auras quand même tout
possible.
Le côté. Mais c'est vrai
deux choses. D'abord, le jeu qui est Left 4 Dead The Board Game, c'est Zombie 15. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le principe de Worms, et puis où est-ce que tu en es en fait du développement et voilà.
Donc Worms, c'est un jeu qui a 20 ans maintenant, qui est un jeu de vidéo où des vers de terre se font la guerre. Qui a connu des versions successives toutes les années et qui sort encore. Donc c'est encore une licence active. Toutes les années, il y a des nouveaux Worms qui sortent. Ils sont passés à la 3D, ils sont revenus à la 2D.
Ils ont adapté sur tout type de plateforme.
Ça sort encore sur Xbox One et PS4, ça sort sur iOS, ça sort sur tout. Donc c'est encore quelque chose qui est actif. Et moi, c'est un jeu que j'ai pris le parti de transformer, d'adapter en jeu de société il y a 2 ans et demi. Ou quand j'ai dit ça aux copains, ils m'ont dit chiche, t'y arriveras jamais, c'est impossible de retranscrire le plaisir qu'on avait à Worms. Et ça, j'étais le premier à en douter, parce que j'ai passé des heures et des heures, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, je pense, à ce jeu. Et pour moi, c'était un challenge en disant je vais essayer. Et j'ai passé des mois vraiment à faire un proto qui tourne bien, parce que quand tu me montres quelque chose comme ça, faut assumer derrière. Et quand j'ai montré le jeu que je trouvais satisfaisant, c'est vrai que les gens m'ont dit ah merde, ouais, ça marche. Ah ouais. Putain,
ta bonne idée, c'est la pitch net pour résoudre les tirs. La subtilité du jeu Worms, c'est ça, c'est de savoir doser son tir avec le vent et tout.
Tout le stress que t'as dans le jeu
c'est
vidéo.
C'est un jeu de pitch net.
Non, pas un jeu de pitch net. C'est un jeu où il y a un paramètre qui est misé sur la pitch net pour retranscrire le stress quand t'appuies sur la barre d'espace pour faire ton missile. Pour appuyer assez longtemps, mais pas trop longtemps.
Il fallait viser, puis il fallait compter avec le vent qui allait faire le retour et tout.
Et là, cette mécanique là est retranscrite en pitch net où tu as une cible. Tu tires avec un petit cube jusqu'à la cible, et plus tu te rapproches de la cible, plus tu fais de dégâts.
Mais je n'adhère pas.
Parce que tu n'as pas essayé.
Parce qu'en plus, il y a des effets qui font que tu décales, t'es pas toujours au bon endroit.
Et c'est la pichenette, finalement, qui est la mécanique que j'ai mis le plus de temps à porter, qui est celle qui retranscrit au mieux cette sensation de je suis une merde, j'ai raté mon coup, mais c'est de ma faute, donc je me moque de moi-même, les autres se moquent de moi, je m'en veux, mais c'est pas grave, c'est fun. Et le fun qui est apporté par ce petit pichenette, mais qui est vraiment un détail du jeu mais qui est important, mais
c'était pareil sur la touche espace, des fois tu te ratais, au bout d'un moment quand t'avais bien joué t'avais l'habitude et tu savais doser ta barre espace, ouais, c'est pareil.
Mais faut pas t'arrêter à la pichenette, parce que c'est vraiment qu'un paramètre. Après on a tout le reste, on a un jeu en 2D qui se détruit au fur et à mesure, on a toutes les armes du jeu que j'ai insérées.
Et la banane à bombe.
Non, pas la banane. Oh. Alors, je suis d'accord. Merde.
La ninja rope aussi.
Oui, il y a la ninja rope. Il y a la grand-mère qui marche. Il y a l'âne d'acier. Par contre, j'ai pas réussi à mettre la banane qui joue sur trop de paramètres aléatoires pour que ça soit gérable avec un jeu de dés. Il y a le mouton et la banane qui sont pas gérables.
Et il y a l'airstrike.
Ouais. Il y a tout le plaisir qu'on a trouvé. Il y a les mines.
Les petites voix correctement.
Alors, il est fait, Fred.
Les joueurs le font tout seul. Et c'est vrai que pendant les festivals, je viens avec une petite enceinte Bluetooth et je passe les sons en off pour que les gens soient encore plus imprégnés. Mais généralement, les gens le font tout seul. Donc c'est assez agréable.
La bombe Alléluia. Tout... Oh, c'est trop bien.
Comme quoi, c'est vraiment ancré dans le.
Ouais, j'essaie de m'ancrer le plus possible et je continue à faire en sorte d'améliorer le prototype pour qu'il colle encore plus. Récemment, j'ai modifié les plateaux personnages pour mettre vraiment des petites roulettes ou les scores des fils et tout. Donc je me suis vraiment amusé à faire un proto qui me coûte une fortune, mais qui, dans lequel je prends plaisir.
Mais tu seras riche une fois qu'il sera édité.
C'est, donc, ça, c'est l'idée.
Non, il sera pas riche, il aura payé la licence.
Si, du coup, il ne fera plus rien.
Si, parce qu'il va le faire chez Hasbro. Donc, ce sera le Monopoly du 3e millénaire.
Alors, côté développement, donc, le jeu était chez un éditeur, enfin, est chez un éditeur depuis un an et demi. Un éditeur qui, que je voyais que lui pour le faire. Je lui ai proposé. Il a dit pourquoi pas.
Alors, voyons. Ce n'est pas Gigamic.
Non, ils vont.
C'est un éditeur où il fait beau.
Donc, on s'abrite bien du
j'en parlerai pas parce que vu que pour l'instant rien n'est fait, j'ai rien signé ni quoi que ce soit, ça reste un état prototype sur lequel je recherche un éditeur.
Ah mais il n'est pas signé ?
L'éditeur, le jeu n'est pas signé, jeu n'est pas fait et du coup je cherche toujours un éditeur qui pourrait le faire, sachant que je sais que la licence est plutôt chère parce que c'est encore une licence qui tourne. Donc il me faut un éditeur qui
attention,
a la capacité de faire un gros jeu.
Une licence coûte cher, mais elle rapporte le fait que ça ne coûte pas d'illustrateurs et tout ça. Quoi.
Je suis d'accord.
Bon, c'est triste de dire ça à proxy jeu où on met toujours en avant les illustrateurs, mais malgré tout, c'est aussi intérêt d'une licence.
C'est ça.
Et ah bon, t'as pas des.
Donc pour l'instant, le jeu n'est pas signé. Je cherche un éditeur pour le faire. Il me faudrait un gros éditeur pour le faire.
Moi, personnellement, parce que tu es prêt à y aller à fond, quoi. Faut que tu trouves des sculpteurs, tu fais des belles figurines Worms et tu démarres un Kickstarter.
Absolument.
Et l'année prochaine, on t'invite parce que t'es celui qui a fait le Kickstarter à 50 millions.
Je suis d'accord, mais ça, il me faut un éditeur pour le faire parce que je pourrais pas faire tout seul.
Bah, Yellow.
Ils font plus de Kickstarter. C'est
ils
trop de. C'est énorme. Un Kickstarter, c'est énormément de boulot.
En fait, Mathieu Bonin a décédé.
Après
le
Kickstarter de Zombie.
Il a des séquelles qui sont liées à la média.
C'est super. En fait, c'est du quasi non-stop l'animation.
Ah, mais j'imagine, c'est un vrai.
Parce qu'en plus, tu dois jongler entre les deux continents, Europe et États-Unis. Donc en fait, t'as quasiment pas de repos. Mais. Oui, non, mais c'est vrai, en plus, si tu fais. Tu peux le faire en Kickstarter.
Ça pourrait être fait en Kickstarter.
Appuie-toi sur Eurogames qui va t'aider parce qu'ils ont la logistique What's Game derrière et c'est parti.
C'est ça. Mais il me faut un éditeur qui gère tout ça pour moi parce que moi, c'est pas mon métier. J'ai juste apporté un concept qui tourne. Et que
on va parler après de ton métier, mais justement, là, c'est
Worms.
L'occasion.
Worms.
Voleur. Voilà. Vous êtes des voleurs de concepts. Et puis après, vous dites, oh, bah, je suis auteur de jeu.
Non, non, il y a un challenge. Tu te dis, tiens. Non,
lui, il est auteur de jeu, lui. Il a fait Maître au Corbeau.
Maître
Renard. Non, Maître Corbeau, c'est l'autre.
C'est l'autre.
Ah, mais t'es un voleur de concept, toi aussi.
C'est l'éditeur qui met un thème, c'est pas moi. Ouais. Donc, non, voilà. Pour l'instant, je suis encore un chargé éditeur sur jeu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont testé et qui l'ont aimé. Donc, j'essaie encore de le promouvoir. Je l'ai montré même, tu vois, à Ludovox, je l'ai montré à Trick Track, des gens comme ça qui connaissent un petit peu. Mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à passer le cap d'arriver à signer le jeu, sachant que justement, je veux le faire avec la licence parce que j'ai peu d'intérêt à le faire sans licence parce que. Les jeux sont tout seuls avec une licence, c'est-à-dire que les gens voient, moi je le vois très bien en salon, je pose la boîte sur une table, les gens voient la boîte qui est marquée Worms, ils disent on peut jouer s'il vous plaît. Donc c'est vraiment un truc magique et ça serait dommage de perdre ça.
Est-ce que tu as essayé de jouer avec des masques?
En disant imaginez que c'est et des Worms, voilà. Vous allez les fermer.
Allez, tu fais la pitchnette.
Mais les pitchnettes marchaient pas.
Ah ouais, c'est forcément. Par contre, ce qui passe, ça m'étonne, c'est que si ça fait un an et demi, la licence, ça me paraît long comme négociation de licence.
C'est quelque chose qui a traîné.
Ouais,
ils ont mis du temps, ils avaient beaucoup de choses à faire, donc c'est pressé d'un carton. Moi, j'étais pas pressé, je voulais les faire avec eux, donc j'ai pas démarché ailleurs. Je suis resté un petit peu dedans. Maintenant, je vois que ça avance pas, j'essaie de voir ailleurs, mais j'ai pas non plus fermé la porte au premier éditeur qui a pas fermé non plus.
Tout à fait.
Juste qu'ils sont en
stand-by. Non, mais c'est les négociations avec Team 17, du coup, qui doivent peut-être
c'est
être.
C'est ça. C'est ça qu'il faut.
Moi, je crois qu'il faut relancer, quoi.
Donc,
c'est étonnant hein, qu'ils démarrent pas ce truc-là. C'est pareil, je suis sûr que si t'arrives et tu te dis regardez, on a déjà sculpté les figurines, on a déjà fait tout ça, le Kickstarter a déjà appuyé sur le bouton là. J'attends juste votre go.
Après, ce qui me manque moi, c'est que pour l'instant, je suis encore un auteur pas connu. Je vais faire mon premier jeu et c'est vrai que un auteur renommé faisait un projet comme ça, je suis sûr qu'il aurait l'habilité pour l'éditer facilement. Moi, j'essaye de percer. Je commence
mais
tout juste à sortir
ça. Ça change quoi en fait?
Le fait de le réseau.
Le réseau, ouais. Au début,
c'est un métier où tout se fait au réseau.
Non mais ouais, mais c'est triste.
C'est comme ça que ça marche la vie. C'est un métier où il faut être connu pour,
c'est
pour avancer.
La minute de lucidité.
Non mais c'est vrai. Tu peux avoir fait le meilleur jeu du monde, si t'es pas connu, tu pourras pas le signer. Donc, enfin, tu peux démarcher les éditeurs, mais quand t'es connu, c'est les éditeurs qui viennent te voir.
Et alors, si tu t'allais pas proposer ton proto à Feduti en lui disant qu'est-ce que tu en penses, il ferait une il y aurait vos deux noms sur la boîte, mais il y aurait son nom aussi.
Prends un odeur qui marche, prends Catan.
Non, pour moi, pour un co-auteur, faut, c'est quand même vraiment quelqu'un qui bosse avec, avec moi sur le jeu, donc c'est pas juste pour avoir un laissez-passer.
Non, je pensais, en fait, je pensais que si t'avais les licences, en fin de compte, c'était pas grave d'avoir un nom. Tu vois ce que je veux dire, c'est à la limite, t'as des mécanismes.
Ça peut, sont, ça peut te consoler. Hein.
Non, mais attends.
Je vois ce que tu veux dire.
Non, je suis d'accord. C'est pas. Oui,
oui. Non, mais si tu vois.
Il faut que.
C'est, mon avis, c'est le fait de pas savoir s'ils ont la licence. Déjà, ça doit les freiner tout court.
Mais normalement, c'est vraiment un éditeur qui vient avec une idée de licence et puis qui voit quel jeu il peut faire. Là, c'est l'inverse. C'est moi qui viens avec un jeu et de la licence obligatoire, enfin que j'essaie de faire. Du coup, c'est pas un canal habituel et c'est pas quelque chose qui se fait.
Tu l'as montré à Yellow et Uri Games?
Je ne l'ai pas encore montré à Yellow.
Ah, c'est pour ça. Et Uri Games, t'as pas leur avis?
Je leur ai pas montré encore Uri Games. Je les ai vus qu'une seule fois à Cannes et le jeu était bloqué d'un autre côté, donc du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de le voir. Mais j'ai pas mal de rendez-vous à Cannes pour le montrer justement.
Ouais, mais cette année, je serai toi, j'irai voir.
Mon planning va être serré.
Yellow.
Uri Games surtout derrière. Après, après c'est Yellow qui édite, donc ton jeu il sera dans 3 ans. Mais tu
courage Mathieu.
Mais il sera bien fait.
Il y aura pas de Kickstarter.
Mais ils sont en train justement. C'est, je m'intéresse.
Non, Uri Games c'est un super studio.
Yellow, ils sont en train de faire leur première licence, qui est Naruto.
Ouais.
Et je connais pas la taille du jeu qu'ils sont en train de faire avec ça. Est-ce que c'est un truc de la taille de Zombicane justement, avec pas mal de matos, des figurines et tout, ou est-ce que c'est un truc un peu light? Ils en ont pas encore dit assez pour que je me rende compte, mais c'est vrai qu'ils sont en train de s'ouvrir aux licences et à voir s'ils sont vraiment un truc plaqué ou est-ce que c'est vraiment un jeu intéressant.
Si tu veux, au départ, le Zombicane, donc on l'a présenté en Left 4 Dead The Board Game et en fait, tout était entièrement le proto, tout était entièrement à l'image de Left 4 Dead. On avait récupéré tous les visuels. C'est Nicolas qui avait fait le proto. Il avait tout fait. Tu sais, il avait.
C'est lui le cerveau.
Ouais, c'est lui le cerveau. Et c'est comme ça. Et moi, j'ai juste. J'ai mis le couteau sur la gorge. J'ai dit, tu mets mon nom.
Vas-y, trim.
Vas-y, chez où t'habites. Et du coup, chez où vont tes enfants. J'étais obligé de faire comme ça, mais bon. Non, mais à tel point que quand on a signé le contrat, c'était pareil. Et là, ils ont dit, on peut pas un jeu comme ça, il faut une bande son, il faut des visuels, il faut des trucs, c'est pas facile pour nous. En plus, on trouve que ça colle bien avec Left 4 Dead. Donc, il y avait une clause suspensive qui disait, si on n'a pas la licence Left 4 Dead, peut-être qu'on fera pas le jeu, peut-être que ça saute.
Ouais, une bande son Worms, c'est bien ça.
Ouais, ça serait super bien aller. Et puis finalement, de fil en aiguille, ils ont dû travailler avec Uri Games, ils ont dû se rendre compte que même s'ils avaient ils ont pas réussi à décrocher la licence, c'était pas grave, ils pouvaient quand même y aller. Et du coup, après, au moment, on a dit, bon, de toute façon, on n'a pas la licence, donc on y va, on se lâche. Il y a des trucs qu'on avait mis par rapport aux jeux vidéo, on a dit, maintenant ça dégage. On a plus de liberté.
T'as la liberté, ouais.
T'as plus de liberté, et donc on a pu faire d'autres choses. Donc,
moi, sûrement, je pense que le joueur serait juste frustré de dire, ah, c'est comme dans Worms, mais c'est pas Worms. Du coup, tu aurais pas la
quand je présente Zombie 15, des fois, les gens, ils font, ah, on dirait Left 4 Dead. Tu dis, bah oui, ça prouve qu'on a bien réussi à le retranscrire, tu vois.
Ouais.
Bah, ça allait pas, c'est pas grave. C'est pas grave non plus. Du coup, le jeu, il a une autre identité et c'est pas gênant. C'est vrai que pour Worms, ça sera peut-être un peu plus. Mais Worms en soi, c'était déjà la reprise de petit concept de jeu de bataille de tank,
tout
simplement.
C'est ça.
Et moi, je vais peut-être faire Monopoly the Board Game.
Ouais, c'est pas mal.
Le Monopoly du 3ème millénaire.
Ouais, y a un concept.
N'est-ce pas? Et donc, Worms, t'as d'autres idées? Donc, à part celles qui sont en signature et celles qui sont en attente.
J'ai d'autres prototypes en effet.
Dont tu peux parler en fait.
Ah ouais, mais c'est pas rare à personne, du coup c'est mes protos à moi que je suis en train d'essayer de montrer à des éditeurs.
Est-ce que t'as des idées comme ça? Tu travailles sur un mécanisme innovant ou
Alors j'essaie de faire
top secret
des jeux.
Je sais pas, attends, on parle.
J'essaie toujours de faire des jeux qui n'existent pas.
Et ça, c'est bien, ça.
Des trucs qui.
Bravo.
Voilà, des mélanges de concepts en fait.
Le piratage, c'est du vol.
C'est ça. Parce que ça, faire un jeu de cube en bois.
J'ai un jeu de zombies en 14 minutes. C'est super innovant.
Alors j'ai vu un truc, c'est comme le Monopoly, sauf que t'as un petit bonhomme et des tapis. Alors moi, ça serait pas des tapis, tu vois.
Je me fais plaisir en faisant des choses que j'ai pas trouvé ailleurs. Et en mélangeant les concepts, j'ai des jeux qui mélangent les concepts des dés et des cartes, ou bien des cubes en bois et des dés, des choses comme ça. Et si ça s'est déjà vu, pour moi, ça sert à rien de développer. Ça sert à rien de faire un 50e jeu de cubes en bois, parce qu'il y en a déjà des tas qui seront encore meilleurs. Donc si je fais quelque chose, c'est parce que.
Tu as juste nous vers la fin du mois.
C'est ça. Mais.
Non, mais je suis
pour l'instant, je suis encore à l'étape où je me fais plaisir, parce que je peux encore inventer des trucs rigolos. Et j'ai un jeu de dessin, j'ai un jeu de rapidité avec un peu de tactique.
Un dessin, tu peux abandonner tout de suite. Il y en a un qui est de toute façon qui
meilleur jeu du monde.
Le meilleur jeu du monde, c'est ce qui c'est. J'ai une anecdote là-dessus en plus. C'est il y a deux ans, on était fatigués. C'est la fin du salon et la petite nana a dit: oh, vous voulez jouer à un super jeu? Goliath, t'as des petits objets, t'as des trucs. Tu dis c'est des jouets, c'est pas des jeux.
Ils font tout touristar, rappelons Goliath.
Elle dit ouais, c'est le meilleur jeu du salon. Tu dis. Puis on s'est assis, c'était le meilleur jeu du salon.
Ça marche, ouais.
Tu connais ce que c'est?
Oui, j'ai joué à Cannes l'année dernière.
Donc voilà, c'est pas la peine. C'est
mais maintenant, en plus, il est bien fait parce qu'ils ont les pupitres, ils ont les machins, ils ont l'animateur au milieu qui fait
leur studio.
Par contre, faut pas avoir ton stand à côté du stand Goliath parce qu'ils t'en foutent une pleine tête. Hein.
Ouais, c'est clair.
Il paraît que vous radotez.
Merde.
Ouais, on radote.
Ouais, mais c'est Olivier, mais bon, pardonnez son âge. Ça fait 40 ans qu'on fait proxy.
C'est vrai que j'ai fait un petit jeu dessin et je sais que presque tous les éditeurs ont leur jeu de dessin, mais je l'ai fait quand même, il me fait plaisir et je vais essayer de le promouvoir quand même. Et voilà, j'ai un jeu de placement d'ouvriers avec des dés sur lequel je travaille, que je vais montrer aussi.
Oh, quelle originalité!
un jeu de placement d'ouvriers.
Tu peux développer le concept?
C'est bien parce que tu dis, ouais, j'aimerais pas faire un
énième. Il y a des dés dedans.
Il y a des dés.
Ah ouais, des dés.
Ah ouais, des jeux de dés, ça on a jamais vu.
Placement d'ouvriers avec des dés, ça me rappelle
un truc.
Ça te rappelle un truc?
Bah oui, c'est
placement d'ouvriers avec des dés, c'était quoi?
Bah, le truc avec couche. Non, il a pas de dés. Non, le truc avec des planètes.
Avec le truc.
Ah, c'est Foria.
Ouais, c'est ça.
Non, mais cassez-moi pas mon truc.
Non. Et l'autre là.
J'ai pas vendu encore.
Un jeu de dés avec des. Dans l'espace. Qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, machin.
Je la tête.
Ouais, je suis d'accord.
Machin Frontière, non?
Frontière.
Ouais. Non, c'est pas Frontière.
Ah, oh, putain. Alien.
Allez, le chat, aidez-nous.
Alien Frontière.
Alien Frontière, ouais, ça doit être ça, ouais.
Accordé.
Ouais. Tu connais pas?
Non.
Ah bah tu vois.
Alien Frontier, non. Cyrus confirme.
Mais voilà, j'ai quelques petits protos dans les sacs.
C'est compliqué, hein. Enfin moi je sais pas ce que c'est moi d'être.
Mais 3 c'est bien aussi pareil, c'est bien des idées qui font de la pose ouvrier, non?
Oui, je suis d'accord.
Ah tu vois.
Mais moi c'est pas pareil.
Ouais. Tu ferais mieux de faire comme Catala quand il est présenté Five Drive, il disait je fais du déplacement d'ouvrier. C'était un peu juste surfer sur une vague.
Sur la Wallet.
Ouais, pour son Wallet en fait, pour pas dire je fais de la Wallet, pas dire. Ouais, j'ai pompé la Wallet. Il a dit je fais du déplacement d'ouvrier.
Il a sublimé la Wallet pour en faire un concept.
C'est ça, il l'a transcendé.
Moi j'aime beaucoup.
Voilà, en fait la question sous-jacente à toutes les conneries qu'on raconte, c'est
qu'est-ce qu'on peut encore inventer.
Voilà, est-ce que déjà tu peux avoir un mécanisme innovant qui soit pas une transposition, parce que les dés, les cartes, tu peux utiliser les cartes au lieu d'utiliser des dés, tu peux utiliser des ouvriers au lieu d'utiliser des dés. Enfin,
bah avant la pose ouvrier, ils n'existaient pas. Il y a un moment, ils sont arrivés. Ouais.
Mais alors, comment tu fais pour avoir le petit truc là,
pour le savoir, c'est que tu fais ton jeu comme tu l'entends et tu le montres à des gens. Et si les gens ils disent ah, ça me fait penser à, c'est mort. Quand ton jeu, tu le montres et les gens disent pas ça me fait penser, et c'est le cas pour certains de mes jeux. Là, tu dis, ah, j'ai peut-être trouvé un truc qui marche.
Et quand tu leur dis, vous voulez rejouer? Ou alors après, tu dis, vous m'achetez une boîte? Et là, ils font, non, c'est bon. Bah, finalement, j'aurais peut-être dû faire un jeu qui ressemble à.
Faudrait que ça vienne ensemble, en effet. Mais c'est vrai que Maître Renard fait partie des gens où on dit, ça me fait penser à rien. Et Pirate contre Pirate ou Worms sont tout complètement à part.
Ah, bah, Worms, c'est complètement à part. On veut dire, ça me fait penser à Worms. Merde, raté.
Dans le bon sens.
Ouais, ouais.
Mais alors, auteur de jeu, c'est pas ton boulot.
C'est pas mon boulot.
C'est pas un vrai boulot, auteur
de
jeu.
Oui, parce qu'en fait, on a dérivé un peu vite, t'as pas eu le temps de te présenter.
Non, mais c'est pas
de la cale.
Je m'assume en tant qu'auteur de jeu, c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que c'est pas mon vrai métier.
Moi, je m'assure en tant que pas auteur de jeu. Hein.
En tant que joueur.
Je suis pas dénigré, mais. Je fais ça, moi.
T'assumes ton statut, toi, Jérémy?
De quoi? D'auteur?
D'auteur de jeu?
Non, je me considère.
Jérémy n'est pas un auteur de jeu.
Moi, je suis joueur, moi.
T'es joueur.
Ouais. Toi, lui,
j'ai conçu un jeu par
erreur.
Moi, je suis un peu tout, mais.
On t'a fait un jeu dans le dos, c'est ça que t'es en train
de faire? Non, non. Non, mais je suis.
Ce salaud de Nicolas.
Après, je sais pas, moi, j'ai fait qu'un jeu et je suis pas sur frais d'autres, etc. Enfin, que celui-là, du coup, on a pris plaisir. L'intérêt, par contre, c'est que tu fais un jeu. Nous, on l'a fait tel qu'on l'aimait, tel qu'on aurait voulu que, si voilà, ouais. Tu vois, on aurait ce jeu sur notre table et on se dirait, ah oui, mais il y a ça et ça qui va pas, ben pas de problème, puisque c'était notre jeu, on a changé ce qu'on voulait. Au départ, on l'a fait pour nous.
Encore les gammes et fait un excellent travail.
Voilà, c'est ça, faut le dire. Moi, j'ai rien fait, en fait, j'ai juste fait la partie com. Et encore, j'étais pas présent sur les salons.
Non, heureusement que t'as pas fait la com. Non, oui.
Non, blague à part, en fait, on l'a vraiment développé au départ juste en délire pour nous. Et puis, c'est au bout d'un moment, on s'est dit, c'est quand même con, ouais. On a un truc, ça tourne pas mal. Peut-être que ça peut être présenté quelque part. Mais voilà, mais on l'a jamais fait dans le but de se dire, on fait un truc innovant ou machin, et le but c'est, et on veut être édité.
C'est souvent comme ça.
Régulièrement, on a des jeux comme ça avec Nicolas qu'on a inventé. Il y a des trucs qu'on a eu inventés et qui sont restés entre nous.
Moi, mon premier jeu aussi, c'est. Alors, mon premier jeu que j'ai fait il y a 3-4 ans maintenant, ça s'appelait Caste à l'Outre, où j'ai fait un jeu.
On trouve la loutre.
Voilà, c'est
Est-ce qu'il y a une contre-pétrie?
Caste à l'Outre. C'est un peu la castagne et on se casse. Et c'est un jeu, en fait, que je me suis forcé à faire pour marier ma passion des jeux du dessin
des loutres.
Normalement, je dis un troisième.
De la castagne.
Du dessin, parce que c'est moi qui l'ai illustré. Ouais. Et des loutres, parce que c'est un animal fétiche que j'ai depuis longtemps. Et je me dis, tiens, pourquoi je ferais pas un jeu sur les loutres avec tout, et que j'illustrais.
C'est
et
pas très vendeur, comme... par contre, la loutre, je pense.
Ah, méfie-toi, il n'y a aucun jeu de loutre. Chat,
bah oui, mais c'est pas par hasard, il n'y a pas un jeu de loutre. Maître loutre.
Tout le monde m'a
est-ce
dit.
Est-ce que t'achètes maître loutre ou maître renard?
Non, mais casse ta loutre.
J'avoue que maître renard, c'est quand même mieux.
Et du coup, j'ai mis pas mal de temps à développer parce que j'ai illustré, mais je me suis fait plaisir en faisant mon propre jeu et le voir qu'il plaisait, j'ai commencé à le montrer à gauche à droite, j'ai fait les concours de création, ça a bien pris, j'ai commencé à le montrer à des éditeurs et tout. Et ça m'a filé le virus, et je suis parti sur d'autres jeux après. Celui-ci, je l'ai mis de côté pour plus tard. Mais voilà, c'est, ça part d'une envie qu'on veut se faire pour soi-même, et après ça.
Ouais, mais c'est beaucoup de temps à développer des jeux et tout.
Ah bah attends.
T'as vraiment mis.
Faut ce qu'il faut, hein. Kenjin, tu venais nous en parler ?
Alors, j'en parle, en fait, je suis venu avec parce que c'est le jeu qui sortira après chez Superlude.
Dans deux semaines, alors, tu nous en parles.
Alors, si tu veux, mais moi, Maître Renard sort pour Cannes, Kenjin sortira. Officiellement, il y aura 100 boîtes aussi disponibles à Cannes.
Qui est l'auteur?
Il sortira juste après. C'est Nicolas Sato. C'est un auteur du Nord.
Il existe vraiment ou?
C'est un vrai genre.
Nicolas Sato. C'est un pseudo.
Demande, hein.
Mais les...
C'est pour pas payer trop d'impôts, des trucs comme
non,
ça.
Non, c'est pas moi.
Mais c'est un auteur asiatique. Mon jeu s'appelle Kenjin. C'est des samouraïs. Il s'appelle Sato à la fin.
Non, non, c'est.
Non, ça va. Le mec, il a mis un S à son prénom Nicolas. Enfin, je pense qu'il a changé. C'est juste son
fastidieux. Le nom de famille correspond en fait à celui de sa femme qu'il a récupéré. C'est pour ça.
Oula, c'est bien compliqué.
Oui, c'est pour frauder le fisc.
C'est ça. Ah bien.
Et,
bah,
coup,
ça suffit.
Le jeu sortira quelques temps après Cannes et il est illustré par Biboon et moi j'ai vraiment aimé le jeu donc du coup j'ai récupéré une boîte. En fait.
Tu vas nous en parler dans deux semaines.
Dans deux semaines. Enfin, allez mais tu pourras en parler dans deux heures en fait.
Et parce que ça va être court le jeu de rôle.
Oui, on peut essayer de. C'est combien d'années que vous avez ce soir?
Non. On va parler aussi de ton boulot. Enfin, j'étais parti, tu vois.
Oui, c'est ça.
Et puis tu m'as.
T'étais bien parti.
Est-ce qu'on peut savoir déjà avant comment t'es venu au jeu? Avant de venir à la création et après ton
merde.
Boulot.
Il était presque.
Mais non, mais il a joué à Magic, il a fait du Colon de Catane, c'est bon, tout le monde a fait ça en fait. Moi, ça
non, pas du tout, du coup je peux en parler.
Ah, tu vois ouais, tout le monde n'est pas Olivier.
Non, je suis tombé dans le jeu de société moderne il y a 7-8 ans en tombant sur les élixirs, les munchkins, les choses comme ça.
Ah, sur des jeux plus vieux quand même, c'est
marrant. Mal alors.
Ouais, munchkins.
Bah, j'adorais munchkins.
Mais non,
quand tu connais que ça, c'est magique.
Culture ludique.
Quand tu ne joues qu'à risque.
T'as dû te sortir.
Mais oui.
T'as dû te sentir vexé quand on a dit que
les gars.
Oui, bah, j'ai pas réagi, j'ai attendu. Mais quand j'ai découvert Munchkin, j'ai acheté toutes les extensions, je dis mais c'est une tuerie, pourquoi tout le monde joue pas à ça? Et je suis allé dans les barrages.
Il y a des raisons, ça ne s'explique
après,
pas.
Après, tu te rends compte que le jeu n'est pas équilibré.
Ah, seulement ça, ouais, puis c'est long. C'est vraiment ennuyeux. Mais.
Ça reste un jeu que je défends parce que
dans
c'est
la
ça,
même
c'est
durée,
c'est Jérémy qui a dit ça. Je vais pas me prendre toutes les pierres.
Dans la même durée de jeu, tu peux faire un vrai jeu, quoi. Faire un truc genre un Manhattan Project.
Ouais. Mais à l'époque, quand tu connais que ça, tu dis waouh, c'est terrible ce que tu fais avec un jeu de société quand tu viens de Monopoly, du risque et tout. Et je me suis mis à fond là-dessus. Je suis allé dans les bars à jeux de Lyon, donc la Triche, les Épinards et tout. J'ai découvert tout ce qu'il pouvait y avoir.
T'es allé à la Triche ou aux Épinards?
Les deux.
T'as pas le droit, c'est pas possible.
Non, à l'époque j'étais abonné Triche, je suis passé aux Épinards et maintenant je suis Covid un peu partout.
Ah, t'es passé aux Épinards.
Pour l'instant, après, je suis ni l'un ni l'autre actuellement.
Ah, parce que, bah, t'es tombé, ils refuseront ta carte d'adhérent.
Ah, j'ai dit aux Épinards.
T'as fait ton coming out.
On s'entend tout bien et j'irai chez aux Épinards après.
Oui, je reste ouvert. Ils leur soirée, donc forcément ils sont d'accord, mais sinon.
Un auteur gratuit, c'est toujours bon à prendre.
Encore un auteur facile.
Ah, mais carrément, moi je me vends. Donc voilà, c'est comme ça que je suis venu aux jeux de société moderne, et petit à petit, les Catan, les Aventures et les Rails, pour finalement essayer de développer mes propres jeux, et voir que finalement je suis arrivé à me débrouiller et j'essaie de faire ça. Quoi.
Et en ce moment, tu joues à quoi?
Non,
tu nous diras. Dans deux semaines.
Dans deux semaines. Comme donc, ça, je joue à autre chose.
Donc du coup, ta profession, tout ça, voilà. Olivier, c'est
comment est-ce que tu fais pour manger?
Alors, jusqu'à maintenant, j'étais...
Je ne mangeais pas.
J'étais ingénieur chimiste dans une grande société cosmétique, et finalement, la société a un petit peu épuré le nombre d'employés qu'elle avait. J'attendais celle-là.
Cosmétique.
Donc voilà, j'ai quitté la société et donc j'en profite pour me reclasser parce que dans cette société j'avais mis en place des serious games sans savoir ce que c'était qu'un serious game, mais j'avais mis en place des trucs d'apprentissage sous forme ludique. J'avais fait des courses au trésor, j'avais fait des enquêtes un petit peu à la Cluedo et les gens ont appris ça pour apprendre à servir de leurs outils informatiques et je me suis rendu compte que c'est un vrai métier et qu'il y a des gens qui faisaient ça pour gagner des sous et je me dis tiens. Si j'essayais finalement de faire un métier qui me plaît, qui me passionne, quitte à gagner moins. Parce que clairement, passer d'un salaire d'ingénieur à un salaire de créateur de jeu, ça n'a rien à voir. Mais je me laisse du coup une petite transition où pendant un an ou deux, j'essaie de créer des serious games et de bosser là-dedans. Et depuis quelques semaines, j'ai trouvé un job là-dedans, où je suis encore que stagiaire, mais je suis en train de prendre l'expérience, où je travaille à CCI de Lyon en tant que game designer
pour des jeux pédagogiques qui servent lors des formations de tout genre, c'est-à-dire la formation du management, la gestion du stress, la gestion de toutes les choses comme ça. Donc tu fais des jeux qui servent aux formateurs qui vont former des stagiaires avec. Et c'est quelque chose dans lequel je me retrouve carrément parce que je suis super à l'aise, parce que créer des jeux, créer des mécaniques, je sais faire.
Surtout que là, t'as besoin de chercher des mécaniques forcément innovantes, en fait.
Alors,
je veux dire, t'es pas obligé par rapport au marché du jeu.
Ouais, quand t'es dans une usine, non, allez, posez-vous. Toi, tu vas là, toi, tu vas là.
Voilà. T'as pas besoin de trouver un truc innovant.
Ouais.
Par contre,
il faut que tu trouves un truc qui colle.
Il faut trouver un truc qui colle et qui soit facile parce que les gens que tu vas former, ils connaissent rien au jeu de société. Ils connaissent que le Monopoly et Munchkin. Voilà.
Ils connaissent Munchkin, ouais, bon.
Tu leur mets des. Par exemple, on utilise Chinatown, qui est un super jeu de négo, pour les formations et la négociation.
C'est dur.
C'est super dur. Mmh. Et surtout, quand tu présentes le jeu, t'as des cases qui vont de 1 à 80. Et les gens, ils disent, on commence au 1, on finit au 80.
Ah merde.
Ouais, après, tu le dis après que t'aies expliqué. Hein. Ils disent, en fait, on commence au 1 là. Et là, tu dis, mince. Donc, c'est un public différent. Du coup, t'es sans cesse en train de transformer les jeux pour les rendre plus simples. Genre, notamment, Chinatown, elle a épuré la manière de scorer, qui est moins équilibrée, mais qui est plus à même d'être compris par n'importe qui, pour qu'on puisse se concentrer sur la négociation.
Il doit y avoir des prérequis quand même sur ces formations, quoi.
sur quoi? Sur les gens
sur qui participent. Avez-vous déjà joué à eux, quoi?
Oui, non.
Quand tu sors.
Donc voilà, je fais voilà, des petits jeux qui servent pour les formations. Des jeux, des fois, on réadapte les jeux dans le commerce. Donc, comme l'île interdite, qui est
Chinatown. Sans payer les droits.
Alors, on paye les droits vu qu'on achète la boîte. On fait jouer des gens. Et on fait connaître le jeu. Donc, et on leur inculque un savoir avec le jeu. Et des fois, quand on crée des jeux depuis zéro en disant il nous faut un jeu qui va nous former pour les assistants de vente. Et donc, du coup, on crée un jeu là-dessus. Quoi. Donc, moi, je viens tout juste dans le projet, je récupère des jeux qui sont vieux pour les actualiser ou bien on est en train de faire des nouveaux projets.
Le Monopoly du deuxième millénaire.
Et c'est, voilà, c'est un truc qui me passionne bien et j'espère pouvoir bosser là-dedans plus tard.
Mais pour l'instant, c'est qu'un stage.
Pour l'instant, c'est qu'un stage de transition, on va dire, reclassement professionnel, en espérant me faire la petite expérience qui me permettra de décrocher un stage là-dedans. Un vrai boulot.
Et ils ont à la chambre de commerce là, ils ont
à la chambre de commerce, ils ont une vraie personne qui s'occupe de ça depuis 10 ans, qui s'appelle Christian Martinez, qui est un game designer, qui a fait des jeux, qui est en train d'en refaire un qui va sortir bientôt.
C'est la deuxième fois que Christian son Martinez. Nom est mentionné dans ouais. ce podcast.
Donc, il a fait des jeux par le passé.
Oui, oui.
Je vous laisse aller voir les infos. Et donc, il a un prochain jeu qui sortira normalement à SN chez Matago. Mmh. Donc, c'est un vrai game designer. Et il a apporté plein de choses là-dessus à la CC.
C'est quoi un faux game designer?
Je ne vais pas citer des noms ici.
Ah, dis.
Non, mais voilà. Ouais,
non, mais ce qu'il y en a, en fait.
Non, t'es pour 6 jeux ici.
Mais je veux savoir, en fait. Non, j'ai l'impression que de toute façon, il n'y a pas de faux game designer.
Si, il y a ceux qui copient.
Si, parce que. Non, mais, non, bah, même
tu
pas
les
ça.
Ils oublient, quoi. Enfin, même, ils n'existent pas, ces gens.
Quand je dis faux game designer, c'est parce qu'au niveau serious game, il y a plein de gens qui se disent je fais du serious game, alors qu'ils ont fait un jeu de quiz, de questions, en disant tiens. J'ai adapté le. Je sais pas, le.
Le jeu de loi.
Le jeu des camemberts.
Un trivial poursuit, ah, c'est un jeu de loi en disant tiens, je te pose des questions sur management, du coup, c'est un jeu de management. Oui et non.
Mais pour beaucoup de gens, ouais, à la base, c'est un jeu de questions. Ouais.
Mais oui, il y a aussi la possibilité de faire des vrais jeux de management avec du placement d'ouvriers en disant tu gères une équipe, tu gères tes ressources.
Tu gères des ouvriers, tu joues à Fabric Manager.
Ou tu joues à Agricola, qui est clairement un jeu de gestion de ressources qui t'apprend à gérer ton équipe et tes ressources.
Non, les agriculteurs sont des indépendants quand même, mon année.
Et voilà, pour moi, un vrai game designer, c'est quelqu'un qui apporte des vraies mécaniques ludiques pour un jeu, et non pas qui dit je vais faire un quiz. Et c'est la différence entre le science game.
Ouais, ok.
C'est pour ça que j'ai vrai game designer de série.
Oui, qui a une culture un petit peu comme du jeu
moderne.
Il a une
vraie culture
moderne,
et qui l'apporte et qui la transmet dans ses jeux, qu'il crée.
Bruno Catala, quoi.
Exactement.
Mais il fait du game design, enfin, c'est du serious game, quoi.
Ouais.
Je sais pas si t'as dû écouter quand il était.
C'est vrai que maintenant j'ai tellement dit de conneries qu'on dit quelque chose de.
Si je veux même
faire. Les gens doivent plus comprendre.
Si je fais le petit fil, c'est grâce à Catala que j'ai ça. Parce que Catala m'a dit que son beau-frère travaillait à la CCI, qui se trouve être Christian Martinez.
Oui, bah oui.
Et du coup, de fil en aiguille, je me suis rapproché de Christian et j'ai pu me renseigner pour le stage.
Tu as facilité le filo. Parce que j'ai dit que c'était la deuxième fois que son nom était mentionné, mais effectivement.
Exactement. Là. Parce que voilà, c'est du réseau.
J'espérais que les gens aillent chercher, tu vois, dans les 60 épisodes précédents pour trouver lequel.
Ouais, mais c'est surtout les Christian Martinez. Et Martinez, on en avait un paquet.
Oui, mais je me rappelle que.
Il y a plein de Martinez
pour Bruno Catala, nous l'avait cité, notamment quand on cherchait un chroniqueur jeu de rôle. Ouais. Bon, maintenant on a Siol, donc il n'y a plus besoin. Mais on peut toujours recevoir Christian pour d'autres raisons.
Si on peut faire 6 heures de magazine par mois, allons-y.
On est plus à ça près.
Non.
Si on veut faire nuit blanche.
Donc voilà.
Et on pourrait faire ça, une nuit du podcast.
La nuit du podcast.
Ouais. À mon avis, si on se met tous les la proxy team dans un endroit et qu'on a suffisamment de bière, on peut faire une nuit du podcast. Bref. Très bien. Bah écoute, voilà. Très bien. Société, donc la cale, laquelle tu l'as déjà présenté la semaine dernière.
Ouais, et puis
plein d'idées.
Quoi, la semaine dernière, début de l'épisode.
Ah bon, c'était déjà il y a 50 minutes.
50 minutes déjà.
C'est pas la semaine dernière.
Non.
D'accord. Bon.
Donc voilà, et puis mettre en avant le premier jeu qui sort, donc ça me donne un petit peu de visibilité, de notoriété. J'assume le fait d'être auteur parce que le jeu est sorti.
T'es un auteur qui s'assume du coup. Mais toi, c'est différent parce que tu.
Jusqu'à maintenant, j'étais un presque auteur. Maintenant, j'ai pas mal de projets qui font que j'ai tout ça. Et c'est vrai que maintenant, je vais essayer de faire en sorte que le jeu soit visible en faisant plein de manifestations, des tournois autour du jeu. Dans Lyon, il y en aura plein. Je vais faire plein de petits les magasins. Je vais faire des trucs pour leur sortie, pour la sortie du jeu, pour faire vivre un petit peu le jeu parce que c'est ça qui fait que le jeu est connu.
Tu vas avoir signé des dédicaces, tout
J'espère
ça.
J'espère qu'on m'en demandera. Si vous venez à Cannes, ça me fera bien plaisir. Sachant que je fais un petit peu de dessin, donc je ferai une petite. Alors, je ferai pas des renards parce que je sais pas dessiner un renard. Par contre, je vous ferai une loutre.
Comment ça, tu sais pas dessiner
Comment ça, loutre? Non, mais faut arrêter avec les
Écoute,
loutres.
Si je dessine un renard, en fait, il sera raté par rapport.
Alors, je sais pas pourquoi.
Oui, il ressemble à une loutre, mais surtout, ils seront tellement moins beaux que le personnage principal et tous les renards qu'il y a dans le jeu que, évidemment, ça fera un petit peu de travers. Donc, je préfère faire une loutre qui aura rien à voir.
Tu peux faire un tampon.
Qui sera vraiment mon personnage et je numéroterai chacune des boîtes.
Il y aura pas l'illustratrice?
Non, je pense pas. Non.
Dommage.
Alors,
donc elle a beaucoup de projets et je suis pas sûr qu'elle soit encore en France.
Attends, je coupe. Ouais. Il y aura pas l'illustratrice.
Elle sera peut-être pas en France à ce moment-là.
Ah, mais non, c'est pas ça la bonne réponse. Ah bah si, on va essayer de la voir, mais mais on va essayer de la voir quoi.
Ouais, il faut
demander à mon éditeur.
Non, c'est pas grave, tu dis oui, elle devrait être là. Sauf contrainte de dernière minute, elle sera là.
Non.
Il y aura des dédicaces prévues le samedi de 10h à midi et le dimanche.
Mais il y aura pas mal d'illustrateurs sur le stand d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il y a Biboune et il y aura peut-être Jib aussi. Il y aura pas mal de beaux éditeurs sur le stand Superlude, en plus de pas mal d'auteurs. Donc il y aura Nicolas Sato, normalement il y aura Frédéric Morard qui a fait le Nigo du Grand Poulpe et tout. Donc il y aura un très grand stand Superlude et qui devrait être bien animé pendant les 3 jours et demi.
Comment ça, et demi?
Parce que moi, je considère que le jeudi, ça compte un peu. J'y suis dès le jeudi matin, en fait.
Très bien, mais écoute, merci beaucoup de nous avoir fait partager ton expérience. J'espère que tu auras beaucoup de succès avec le Serious Game. Je pense que c'est important, effectivement, le Serious Game intelligent, pour avoir fait quelques formations, ça peut être un vrai outil.
Un vrai vecteur.
Pas quelque chose d'anecdotique. Et surtout, ça peut être... quand tu me parlais tout à l'heure, je pensais coopération, communication, team building. Voilà, ça peut être vraiment très, très intéressant. J'espère que tu trouveras... Ton boulot de Serious Gamer va pas empiéter sur ton boulot de
dire franchement qu'on espère que Martinez passera sous une voiture et que t'auras sa place.
Et puis voilà, merci beaucoup pour ton témoignage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de... Alors ça sera pas nous, enfin, on va faire juste une petite intro et puis une outro, une conclusion. Ça sera du full die, do it yourself. Est-ce que tu fais ça toi?
En tant qu'auteur, tu fais tes protos et du coup je suis les genres post-casse comme ça qui donnent des informations, qui donnent des idées, que c'est pas mal.
Là, ça sera découpe laser, tu vois.
Ou alors t'as un co-auteur et
Nicolas qui fait tout pour lui, mais non, je suis avec mes petits doigts.
C'est quand même vachement plus facile d'avoir un co-auteur qui fait le proto.
Non, moi je suis plutôt le genre de
d'ailleurs, Alexis, si tu veux être co-auteur avec moi, je fais les mécanismes, on met ton nom sur la boîte, mais tu fais les protos.
Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour du die, la découpe laser, et en attendant.
Je vais bien.